les frères et les sœurs. Voilà, alors on va prier et on va commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Moment, Seigneur, où nous plongeons nos regards dans ta parole, sachant que celle-ci est source de vie, qu'elle nous nourrit, qu'elle nous abreuve comme nous en avons besoin. Et nous demandons, Seigneur, que la parole de ce matin trouve un sol qui est propice afin que nous puissions croître et croître, Seigneur, jusqu'à porter du fruit et un fruit qui t'est agréable, non seulement de notre vécu ici sur terre, mais aussi, Seigneur, jusque dans l'éternité. Merci, Seigneur, d'ouvrir notre entendement. Merci, Seigneur, de façonner nos vies afin, Seigneur, que nous soyons cette plantation qui porte un fruit abondant pour toi. Bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin, et que en toute chose, que ce soit à travers nos paroles, à travers nos pensées, à travers nos actions, même à travers nos réactions, que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue, que tu aies la première place dans nos vies, et qu'en toute chose, Seigneur, tu prennes plaisir à ce moment que nous prenons avec toi. Merci de nous accueillir, merci de nous recevoir, et merci de déverser sur nous ta grâce et ta miséricorde. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens, au chapitre 15, et je lis pour vous le verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Je répète, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Hier, on a vu les trois premiers mots, « Ainsi, mes frères bien-aimés », et aujourd'hui, on étudie cette deuxième, ce deuxième groupe nominal, « Soyez fermes ». Et vous allez voir à travers les deux prochains jours qu'il y a une différence entre « soyez ferme » et « soyez inébranlable » que nous verrons demain. Donc, « soyez ferme ». Encore là, un impératif. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une proposition, mais c'est vraiment un commandement, un ordre que Paul, inspiré de l'Esprit-Saint, partage avec l'ensemble des croyants de Corinthe. Et leur dit, ne soyez plus ballottés, ne soyez plus légers dans vos fondations, dans vos fondements, parce que c'est une notion qui va revenir régulièrement aujourd'hui. Donc, soyez fermes. Le terme « soyez », donc de l'infinitif, le verbe « être », qui se dit en grec « ginomai », donc « g-i-n-o ». M-A-I, je répète, G-I-N-O-M-A-I, qui veut dire devenir, exister, se lever comme se présenter, être fabriqué et apparaître. Ça démontre, ou ce terme-là, l'utilisation du verbe être ici, parle d'une transformation, parle d'un début, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle façon d'être. Et cette nouvelle façon, dans ce cas-ci, c'est comme s'il y a une prise de conscience que Paul demande aux croyants de Corinthe afin qu'à partir de cet instant, ils travaillent à la fermeté de leur foi, à la fermeté de leur vie spirituelle. Et je pense que pour nous aussi, ça doit être une source d'enseignement. La vie spirituelle n'est pas comme le titre d'un livre ou d'un film le laissait entendre, n'est pas comme un fleuve tranquille qui coule. La vie spirituelle est faite de décisions, est faite d'étapes, est faite de saisons. Et je pense que régulièrement, il est important d'avoir ces temps d'introspection pour se demander, est-ce que je suis dans l'état dans lequel je devrais être? Est-ce que je suis actuellement sous la forme dans laquelle Dieu voudrait que je sois? Est-ce que mon état spirituel est un état qui est approuvé, qui est acceptable et qui est béni par Dieu? Et on sait tous qu'on est supposé aller de progrès en progrès. Paul va le dire très clairement, comme quoi le croyant était supposé aller dans cette progression de mieux en mieux, travaillant pour le Seigneur de mieux en mieux, aller de progrès en progrès. Donc notre état spirituel ne devrait pas être latent, notre état spirituel ne devrait pas connaître de stagnation, et pire encore, notre état spirituel ne devrait pas connaître de régression, mais il devrait être en constante progression, en s'approchant constamment un peu plus à chaque jour de la stature parfaite de Christ. Et ici, Paul va dire, vous devriez prendre cette décision de vous affermir dans le Seigneur. Alors le terme ferme, qui est le terme principal de notre méditation de ce matin, c'est le terme hédraios. Hédraios, donc H-E-D-R-A-I-O-S. H-E-D-R-A-I-O-S, qu'on retrouve trois fois dans le Nouveau Testament, et les trois fois sont dans les écrits de Paul, deux fois dans le livre de Corinthiens, et je crois une fois dans le livre de Colossiens, mais à chaque fois, c'est vraiment la notion de fermeté. Hédraios vient d'un autre terme familier, qui est le terme hédra en grec, donc H-E-D-R-A. De ça, on va tirer certains termes comme cathédrale. Donc cathédrale, il y a cat et il y a hédral. Donc hédra va vouloir dire quelque chose qui est basé, quelque chose qui a pris son siège, quelque chose qui est comme une résidence. La cathédrale, c'était la maison de Dieu, c'était le palais de Dieu. Donc ici, on va parler de quelque chose qui ne bouge pas. On ne parle plus de tente, donc l'habitation du nomade dans le désert, autrefois au niveau du peuple d'Israël, avant qu'ils ne construisent des maisons dans lesquelles ils vont s'établir dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Avant ça, ils étaient des nomades vivant sous des tentes. Et ici, le terme hédra ou le terme hédraios va parler de cette sédentarisation, de ce fait de s'établir à un moment donné quelque part et d'y prendre des racines ou d'y mettre sa base. Alors, c'est une notion qu'on va voir sous différents aspects aujourd'hui. Premier point, s'il nous dit d'être ferme, c'est qu'on nous appelle tout d'abord à être bien fixé au sol, bien enraciné au sol. Mais fixé à quoi? Fixé à deux choses qui sont en fait une seule et même chose. Fixé à Christ, qui est le rocher solide sur lequel nous devons bâtir notre maison. Et Christ, nous le savons, on va nous dire dans les évangiles que la parole a été faite chair. Donc Christ est le Logos de Dieu, la parole de Dieu qui s'est manifestée dans un corps humain en tant qu'homme ici-bas sur terre. Donc être bien fixé au sol, c'est être bien fixé sur ce rocher solide qu'est la parole de Dieu et qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Important pour nous d'avoir effectivement cette hygiène de vie. Je pense que pour plusieurs, avoir ce temps de dévotion matinale est un bon supplément alimentaire, entre guillemets, spirituel, vient compléter probablement une hygiène spirituelle dans laquelle vous avez déjà l'habitude de lire la parole, de l'étudier, de la scruter, de la méditer, de l'apprendre. Donc toutes les occasions qu'on a d'étudier la parole de Dieu participe plutôt à notre affermissement sur le roc, sur le solide rocher qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc être bien fixé au sol, sachant que ce sol sur lequel nous bâtissons, c'est la parole de Dieu et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Être bien fixé au sol veut aussi dire accepter de se fixer au sol. Comme deuxième point aujourd'hui, accepter de bien se fixer au sol. La Bible nous dit que la semence est lancée, mais cette semence parfois ne tombe pas dans le bon sol. Et cette semence, parfois, va tomber dans une terre qui est sèche, qui est aride, et dans laquelle la racine ne peut pas s'approfondir. Parfois, elle va tomber dans un terrain rocailleux. Parfois, elle va tomber parmi les épines. Donc, il va y avoir une petite croissance, mais à un moment donné, les circonstances autour ou le contexte dans lequel cette parole est établie et cette parole est donnée fait en sorte qu'elle ne peut pas prendre racine. Donc, pour nous aussi, il faut accepter de bien se fixer au sol. Pour nous aussi, il faut accepter qu'à un moment donné, Dieu nous appelle à une sédentarisation au niveau spirituel, qu'il nous faut faire l'effort de s'enraciner. Un peu comme le psaume 1 qu'on a étudié au tout début de notre confinement, qui nous compare à un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui étend ses racines jusqu'à l'eau afin de s'abreuver et d'aller chercher tous les nutriments dans le sol et dans l'eau dont l'arbre a besoin. Et on nous dit que cet arbre qui est bien enraciné va rester vert en toute saison et même dans la saison sèche va porter du fruit. Donc nous aussi, on doit accepter d'être cet arbre. Et je dis régulièrement lorsqu'on parle de ce verset qu'un arbre qu'on plante et qu'on transplante et qu'on transplante et qu'on transplante ne sera jamais amené à porter du fruit. Lorsqu'on prend un pommier et qu'on le déplace d'un endroit à un autre, même si cet endroit est rapproché, même si le temps où ce pommier reste à l'extérieur du sol, malgré tout, il va falloir attendre encore quelques saisons avant que le pommier ne puisse porter ses fruits, parce qu'on ne déracine pas un arbre pour le replanter ailleurs en pensant que les fruits vont être perceptibles dans un court laps de temps. Et à l'occasion, lorsqu'on transplante trop souvent un arbre, ben cet arbre-là va devenir infertile. Cet arbre-là ne pourra plus porter de fruits, voire même dans certains cas, l'arbre va mourir parce que transplanté trop souvent. Alors il faut aussi dans notre foi, dans notre cheminement, il faut accepter à un moment donné qu'on se fixe au sol. Non seulement se fixer au niveau de la parole de Dieu, non seulement se fixer sur le rocher qui est Christ, mais en tant qu'arbre dans une plantation, la Bible dit que nous sommes une plantation à la gloire de Dieu, ben cette plantation locale est aussi l'Église. Et à un moment donné, il faut s'implanter dans un endroit qui devient notre église. Et voilà pourquoi Paul va être si intransigeant dans le livre aux Hébreux lorsqu'il va dire que nous devons rester fidèles à nos assemblées, nous ne devons pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de certains. Pensez un peu le côté invraisemblable de la chose. On est au début de l'histoire de l'Église primitive. On est peut-être rendu à 40 ou 50 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et là, Paul est déjà obligé de dire aux croyants, dans le livre, dans sa lettre aux Hébreux, de dire aux croyants, ben, arrêtez de vous promener d'un endroit à un autre et d'abandonner votre assemblée locale. Parce que pour certains, c'était déjà rendu une coutume. Rester une saison dans un endroit, quitter pour aller dans un autre, quitter par la suite pour aller dans un autre endroit. Et c'était comme des oiseaux migrateurs qui se transportaient d'un endroit à l'autre, d'une église à l'autre, à moins que on ne soit de missionnaire comme Paul, qui voyageait et qui établissait des lieux missionnaires et qui établissait des églises, à moins d'une raison aussi majeure qui l'imposerait. Je pense que nous devons aussi apprendre à nous enraciner dans l'endroit où Dieu nous a placés. Donc, accepter de bien se fixer au sol. Troisième point, et qui va dans le même sens, accepter de ne plus être bohème ou nomade. Lorsqu'on parlait d'être Hédraïos, on parlait d'être assis, d'être sédentaire, d'être fondé, d'être établi et d'être immobile, de ne pas pouvoir être transporté d'un endroit à l'autre. Et il nous faut à un moment donné accepter de ne plus être un bohème et un nomade. Je sais que On est tous attachés à cette notion de liberté que la société moderne et contemporaine, dont la société moderne et contemporaine fait la promotion, mais à un moment donné, en tant que croyants, nous devons abandonner notre vie de bohème, notamment au niveau des fois ou de la foi, au niveau aussi de l'implantation dans un culte ou dans une église locale. Donc, veillez à notre sédentarisation au sein d'une église locale. Un des points importants aussi concernant se fixer au sol, savoir que mon attachement à un endroit, ce n'est pas juste la responsabilité de Dieu. Oui, certes, Dieu a un endroit pour nous, a un endroit où il veut qu'on s'établisse, mais la responsabilité est non seulement la responsabilité du sol, mais aussi la responsabilité de la fondation, ou la responsabilité du terrain, mais la responsabilité de l'arbre aussi. C'est comme si Dieu a fait que l'arbre que nous sommes avons deux pattes, deux pieds qui peuvent se mouvoir d'un endroit à l'autre. Et à un moment donné, il faut accepter que ces pieds-là s'ancrent, s'enracinent dans un endroit, dans une église locale. Et ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. C'est vrai que en tant que frère aîné dans l'histoire du fils prodigue qu'on a eu à étudier aussi, on se rend compte que le frère aîné aurait pu avoir un effet dissuadeur au niveau de son frère cadet qui revenait vers la maison, et l'attitude du frère aîné aurait pu repousser au loin le fils cadet ou le frère Benjamin. Mais nous sommes appelés à avoir cette attitude qui accueille les gens, bien sûr. Donc, ce faisant, on participe au bon état du terrain. Mais de surcroît à cela, le premier qui a des pieds pour se déplacer, c'est moi. Alors, c'est moi qui décide de rester sédentaire ou de maintenir ma vie de bohème et de nomade. Et je crois que pour une certaine tranche de la population occidentale, c'est d'autant plus difficile qu'on a grandi avec toute cette pensée un peu baba cool, peace and love, nomade, bohème des années 60-70, où on expérimentait une liberté sociale et autres, qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une chrétienté sous l'aspect d'un groupe militaire, sous l'aspect d'une armée, sous l'aspect d'esclave par rapport à un bon maître, un très bon maître, mais quand même esclave, on a cette difficulté à rentrer dans le mode d'opération de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé dans sa façon d'être, dans ses attentes et ce qu'il attendait de son peuple au tout début, lors de la création de l'homme et de la femme, qui était de travailler sous la responsabilité, sous la tutelle de Dieu, dans un jardin qu'il avait établi, de se soumettre aux règles, ça a été perpétué par la suite comme demande de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Avec les lois de Moïse, c'est très clair que Dieu impose un code de conduite, une façon de faire, un mode d'opération. Et par la suite, dans l'Église, c'est encore la même chose. Dans l'Église, nous sommes des athlètes qui doivent fonctionner selon des règles et on nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc il y a des règles qui sont supérieures à nous, qui viennent et qui émanent de Dieu et qui demandent de nous un établissement, un assujettissement, une sédentarisation. Et si je viens avec ma pensée des années 60-70, avec cet esprit de liberté et d'insoumission, ben à ce moment-là, je passe à côté de certaines règles et prérequis que Dieu impose. Je pense qu'on a Annie qui est ici ce matin, qui est militaire de formation, de carrière. Donc pour elle, et je pense aussi au frère Alex, qui est militaire de carrière aussi, pour eux, c'est une notion qui est logique, qui est comprise. Mais pour nous qui sommes des civils, on a souvent de la difficulté à rentrer dans ce mode de pensée comme quoi ben, le peuple de Dieu est aussi une structure dans laquelle il y a une hiérarchie au niveau des ordres, des commandements, au niveau de donner les responsabilités et les tâches à accomplir. Alors pour certains qui ont une carrière militaire, c'est peut-être plus facile à saisir, mais pour nous qui sommes des libres penseurs et des civils, c'est parfois un peu difficile, mais on doit rentrer et se soumettre à la pensée de Dieu concernant l'abandon de cette vie de bohème et de nomade. Quatrième point, quand on parle de s'affermir, on parle aussi de donner à sa vie un fondement adéquat. Et ici, on peut parler d'une construction, d'une maison. Une maison ne va tenir que si son fondement est solide, que si la structure de cette maison est solide. On se rappelle tous la petite histoire qu'on racontait aux enfants lorsqu'on était petit sur les trois cochons et leur maison, puis il y a le loup qui vient souffler. La Bible a la même illustration, mais avec le fou et le sage qui bâtissent un sur du sable et l'autre qui bâtit sur le rocher. Donc, quand la tempête vient, la maison qui est bâtie sur le sable s'effondre, alors que la maison qui est bâtie sur le rocher perdure et persiste et se maintient en place malgré la tempête. Donc, pour nous, il est important de savoir que nous ne pouvons pas croître et on ne peut pas aller de progrès en progrès si la base même de notre vie n'est pas solide. Alors, on s'affermit, on fait une bonne fondation pour que notre vie dans son ensemble soit solidifiée à la base, à cause du fondement sur lequel on est construit. Donc, lorsque Paul est en train de dire à l'église de Corinthe de s'affermir, c'est qu'il comprend que cette église que nous formons, ce temple de l'Esprit-Saint que nous sommes de façon individuelle, mais aussi le groupe que nous formons en tant qu'Église, ne peut fonctionner, ne peut opérer et ne peut aller dans la gloire suprême que Dieu a pour nous, dans l'appel suprême que Dieu a pour nous, que si nous sommes effectivement bien fondés, bien établis, bien assis dans notre foi. Donc, quatrième point, donner à sa vie un fondement qui est adéquat. Si ta fondation est trop faible, la construction que tu vas faire dessus ne pourra probablement pas résister. Elle va probablement s'effondrer parce que le fondement, parce que le cadre sur lequel tu es bâti est trop fragile. Cinquième point, donner à sa vie un fondement sur lequel on peut construire. Le but même d'être ferme, c'est de pouvoir construire par-dessus. Un fondement pour un fondement ne sert à rien. Je veux dire, si tu ne construis pas par-dessus le fondement, t'as un beau trou rempli de béton, c'est bien solide, mais qu'est-ce que tu fais par-dessus? Donc, le but du fondement est nécessairement de croître et de construire dessus. Malheureusement, il y a des gens qui veulent construire tout de suite le gratte-ciel sans penser au fondement. Ils veulent ce qui est visible. Et c'est ça qui est embêtant avec la fondation, avec tout le travail de fondation, c'est que c'est pas quelque chose que tu vois nécessairement. Ce que tu admires, c'est les briques bien rouges de la maison quand elle est érigée, c'est la forme du toit, c'est le type de fenêtre que tu as utilisé, la couleur de la porte, l'aménagement paysager qu'il y a autour, mais il n'y a personne qui s'arrête pour regarder le fondement et dire « Hey, c'est une belle chose, pourquoi? » Parce que le fondement est enfoui dans la pierre, parce que le fondement est enfoui dans le rocher et ce n'est pas quelque chose qu'on remarque ou qu'on a de visible. Donc là, il y a Néma qui me dit bonjour. Voilà, c'est beau, couchez. Donc pour nous aussi, c'est le dilemme qu'on a parfois. On laisse de côté la fondation et le travail de socle sur lequel on doit se construire, mais avec le temps, ça nous rattrape. Donc nous voulons construire. Nous voulons aller de progrès en progrès. Nous voulons ajouter des étages à notre édifice. Nous voulons effectivement que la structure extérieure soit belle, soit attirante pour que d'autres s'approchent aussi de Christ. On veut être des modèles, on veut être des exemples. Mais tous ces modèles, tous ces exemples, toute la beauté extérieure ne peut se manifester et ne peut perdurer que si effectivement ma fondation et ma base sont solides. Donc ça, c'était le cinquième point, donner à sa vie le fondement sur lequel on peut construire. Revenons à la thématique de l'arbre pour notre dernier point ce matin. Donner à sa vie un système de racines fertiles. Donner à sa vie un système de racines fertiles. On revient dans le psaume au chapitre 1, qui dit que celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des courants d'eau. qui étend ses racines et qui reste vert durant la saison et durant même la sécheresse et qui porte du fruit en toute saison. Ici, on doit comprendre qu'un arbre qui porte du fruit est un arbre utile et c'est agréable de manger le fruit. Mais pas de racines, pas de fruits. Pas de racines, pas d'arbre fertile. Alors pour nous, ces racines, c'est non seulement un point d'ancrage dans le sol, mais c'est aussi le moyen, les outils à travers lesquels on se nourrit et à travers lesquels on produit éventuellement du fruit. Un fruit va prendre du temps à croître. Un fruit va prendre du temps à mûrir. Mais ce fruit-là vient à la base de ce que les racines sont allées tirer du sol et de ce que les racines sont allées tirer des courants d'eau qu'il y a autour. Donc, pour nous, c'est important aussi à savoir, je ne porterai pas du fruit, je ne porterai pas un fruit qui est agréable, je ne porterai pas un fruit qui est en santé et qui est accepté par Dieu, qui est le propriétaire de l'arbre, à moins que mes racines et que mon système de racines soient bien étendus. Et je vous rappellerai un fait qu'un horticulteur ou un arboriste pourrait vous expliquer. Lorsqu'on regarde un arbre et qu'on regarde son feuillage, on nous dit que l'ampleur du feuillage ou le volume du feuillage au niveau des racines, c'est le double. Donc, quand on regarde un arbre avec le diamètre qu'il fait au niveau de ses branches et de ses feuilles, dans le sol, il y a le double de diamètre au niveau des racines. Et ça devrait être un enseignement pour nous. Plus nous voulons être volumineux à l'extérieur, bien plus nos enracinements ou notre enracinement dans le roc solide, en Jésus, dans la parole, doit être volumineux. Donc, il est important de veiller à notre enracinement. Il est important de veiller sur quoi nous sommes enracinés. Est-ce qu'on est enraciné effectivement sur le logos, sur les choses importantes et primordiales de la parole de Dieu, ou la seule chose sur laquelle on s'enracine, et on prétexte parfois que c'est la parole de Dieu, mais c'est juste les détails croustillants qu'on peut avoir à droite et à gauche sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont des chercheurs des problématiques bibliques, des chercheurs des incongruités, pense-t-il, bibliques, qui sont chercheurs de ces détails particuliers. Je vous en cite quelques-uns dans l'Ancien Testament, qui sont les fils de Dieu qu'on mentionne dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres de Genèse. Est-ce que c'est des anges déchus? Est-ce que c'est des anges de Dieu? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Qui sont les géants? Patati patata. Si on arrive à trouver, fantastique, mais est-ce que ça change quelque chose dans ta vie quant à ton appartenance à Christ, quant à ta connaissance plus profonde de Christ, quant à ta connaissance plus profonde de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu demande de toi, de ce que Dieu exige de toi. Alors des fois, on prend la parole de Dieu, on se dit « ouais, je la médite énormément », mais la seule chose qu'on fait en fait, c'est aller chercher ces détails qu'on dirait que j'appelle moi croustillants, tout simplement pour égayer une conversation et faire une exposition de quelques savoirs ou de quelques connaissances, mais foncièrement, je ne me suis pas enraciné en Christ en sachant ce qu'il demande de moi et en prenant les décisions pour plaire et pour me soumettre à ses exigences. Alors, rappelons ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous sommes appelés à être bien fixés au sol, Christ et la parole de Dieu étant notre roc d'ancrage. Accepter, deuxième point, accepter de bien se fixer au sol. C'est notre responsabilité à part entière de m'ancrer dans le sol. C'est moi qui dois étendre mes racines. Accepter de ne plus être une bohème ou nomade. Accepter que dans ma vie chrétienne, je dois avoir de la stabilité au niveau de ma foi, mais aussi de mon appartenance au corps local. À chaque fois que je me déplace d'un endroit à l'autre, à chaque fois que je pars d'une église vers une autre, mais je suis en train de vivre un déracinement qui va demander une autre période d'adaptation et les fruits ce faisant, vont venir à manquer, si même y a-t-il un jour des fruits. Quatrième point, donner à sa vie un fondement qui est adéquat. Il nous faut solidifier notre base. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui ne se remarque pas à l'œil nu, mais qui est important pour la suite des choses, notamment pour notre cinquième point, qui est avoir une fondation solide pour pouvoir construire au-dessus. Et dernier point, donner à sa vie un système de racines fertiles, afin que nous, en tant qu'arbre, cette fois-ci, on puisse effectivement aller chercher tous les nutriments et toute la nourriture et toute l'hydratation dont on a besoin pour croître et porter un fruit durable pour Dieu et agréable pour Dieu. Alors voilà, c'était la méditation de ce matin. Demain, on va continuer dans un synonyme en français, nous semble-t-il, mais dans le texte original, on se rend compte que c'est une autre pensée. Donc aujourd'hui c'était soyez ferme et demain c'est soyez inébranlable. Alors on va prier, après quoi je saluerai quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis que nous avons commencé notre enseignement. Alors Seigneur, nous te remercions de ce temps que tu nous permets d'avoir pour faire des introspections, pour réaliser ce que tu attends de nous, ce que tu demandes de nous, ce que tu exiges de nous. Et cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous plier à ta volonté, de nous soumettre à ta sage recommandation, Dieu. Tu nous dis, Seigneur, d'avoir effectivement ce fondement ferme et solide, parce que c'est sur ce fondement que tu veux construire. Et c'est sur ce fondement, Seigneur, tu veux que nous grandissions. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous révéler clairement ce que toi tu penses du fondement qui est le nôtre. Que tu nous révèles clairement, Seigneur, sur le travail à faire pour solidifier la base de notre vie. Parce qu'effectivement, Seigneur, nous voulons construire quelque chose qui est à ton honneur et quelque chose qui dure. Nous ne voulons pas être comme le fou qui bâtit sur le sable et dont la maison va être rayée de la carte. Mais nous voulons être comme le sage qui bâtit sur le rocher solide et lorsque la tempête vient, cette maison demeure. Nous voulons, Seigneur, avoir ce fondement qui fait en sorte que nos racines sont si profondément ancrées dans le sol que le vent ne peut pas nous déraciner, que la sécheresse ne peut pas nous affecter parce que nos racines sont si profondes qu'elles vont jusqu'à trouver l'eau là où elle se trouve et qui va chercher les nutriments dont nous avons besoin pour croître et pour effectivement porter un fruit, Seigneur, qui t'est agréable, ici-bas de notre vécu, mais aussi jusque dans l'éternité. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère ce matin. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir leur entendement à la parole qui a été partagée aujourd'hui, et que tu puisses, Seigneur, faire en sorte qu'ils puissent s'enraciner encore davantage. Pousse-les, Seigneur. Invite-les. Motive-les, Seigneur, à faire ce travail d'enracinement, de sédentarisation en toi, afin, Seigneur, d'être les hommes, les femmes, les bâtiments, le temple du Saint-Esprit que tu désires qu'ils soient, et ces arbres qui servent à ta gloire dans ta plantation. Alors nous t'avons prié en ton nom, nous te bénissons en ton nom Jésus. Amen. Alors, quelques personnes qui se sont jointes à nous, on a bien entendu Consuelo et Jean, donc ils sont à Montréal. Donc bienvenue dans la plus belle ville au monde, d'après moi. C'est ma plus belle ville au monde. Donc bien le bonjour à vous. Je pense que vous êtes chez André et Manon. Alors ayez du bon temps. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Bonjour à Chanel et à toute la famille. Bonjour Didier. Bonjour à Vita et à Javel. Bonjour à Martha Lucia. Bonjour à Carlos. Dieu te bénisse, mon ami. Bonjour à Linda. Et je pense, bonjour à Maggie Donoso. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain matin pour une autre bénédiction matinale. On vous rappelle, c'est important de vous inscrire pour l'assemblée de dimanche, si vous faites partie des trois groupes qu'on a l'habitude de recevoir. Bientôt, on va changer les règles. Donc, ces personnes-là n'auront peut-être pas accès aussi rapidement à l'Assemblée. Donc, profitez-en. Si vous avez 55 ans et plus, si vous êtes une personne seule, si vous êtes en couple, mais qu'un seul des deux fréquente l'Église et vous avez 55 ans et plus, là encore, ou si vous êtes un couple de l'Église qui avait 65 ans et plus pour au moins un des deux conjoints. Donc, vous appelez, parce que je vous le dis là, bientôt on va changer les règles. Alors, les personnes qui sont venues jusqu'à présent vont peut-être avoir à attendre quelques semaines avant de pouvoir revenir selon le processus de succession qu'on va avoir pour permettre à un plus grand nombre de participer à l'Église. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Affermissez-vous bien dans la foi. Étudiez la parole de Dieu à votre pause ce midi. Prenez un temps pour relire ou pour écouter encore de nouveau ce court enseignement. Prenez un temps pour chercher la face de Dieu et que vos racines s'étendent. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à tous.